Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être toujours fidèle à Métropolez-vous. Bienvenue à tous ceux qui découvrent cette émission. Solidarité est un mot qui revient souvent dans l'actualité et ce dans bien des domaines, que ce soit sur notre territoire national ou en matière de politique internationale. Derrière ce mot, il y a des discours qui relèvent de l'incantation et puis il y a des initiatives, des actions concrètes. Certains émanent de particuliers ou du milieu associatif. D'autres sont organisés et menés par les institutions publiques et les collectivités territoriales, que ce soit l'État, les régions, les départements, les communes ou les métropoles. C'est aux actions menées par ces dernières que nous allons nous intéresser aujourd'hui lors de ce numéro de Métropolez-vous et plus particulièrement bien sûr à celles pilotées par la métropole toulousaine. C'est la question du jour. Quelles actions mène Toulouse Métropole pour la solidarité ? Et la solidarité est a priori un pan important d'un des domaines de compétence de Toulouse Métropole, celui de la cohésion sociale. C'est pour en parler que nous recevons dans cette émission Julie Escudier, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de la cohésion sociale. Bonjour Madame la vice-présidente et merci d'avoir accepté notre invitation à échanger sur ce thème de la solidarité dans la métropole toulousaine. Pour être tout à fait complet, j'ajoute que vous êtes également conseillère municipale déléguée, chargée de mission à la mairie de Toulouse en charge de l'égalité femmes-hommes et que vous exercez le métier d'avocat. Comme cette compétence cohésion sociale à la métropole a peut-être besoin d'être précisée pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle recouvre exactement et quels en sont les principaux domaines d'action ?
Merci d'abord de m'avoir invité et de m'accueillir aujourd'hui. Je suis effectivement ravie de pouvoir parler concrètement des actions de Toulouse Métropole et en particulier donc des actions mises en place avec les communes, puisque très souvent les actions mises en œuvre dans le domaine de la solidarité sont des compétences communales, même si nous verrons ensemble que certaines compétences sont des compétences propres à la métropole. Je suis ravie donc de pouvoir avec vous aujourd'hui évoquer concrètement quelles sont les actions de la métropole avec les communes pour agir pour plus de cohésion sociale.
Alors, dans la cohésion sociale, qui est le titre générique de ce domaine de compétences, quelles sont les grandes lignes qu'on retrouve ?
Alors, les grandes lignes sont essentiellement la prévention, notamment aussi d'ailleurs la prévention de la délinquance, on pourra en dire quelques mots. L'éducation, la parentalité, l'accès aux droits et à la justice, voilà, mais également ça touche à des actions concrètes, mais aussi des actions avec d'autres institutions sur la réussite éducative, mais nous en parlerons aussi, ça touche aussi à l'insertion et à l'emploi. Voilà, donc des actions spécifiques aussi en matière de politique de la ville, en matière jeunesse. Voilà,
en matière de logement.
En matière de logement, voilà.
Merci pour toutes ces premières indications et précisions. Il va falloir patienter un peu avant d'entrer dans le détail parce que dans l'immédiat, c'est l'actualité métropolitaine qui prime. Et pour avoir les dernières nouvelles, nous retrouvons comme chaque semaine Corinne Saint-Félix et son flash d'information métropolitaine. Métropolez-vous, l'actu. C'est la bonne nouvelle de ce flash, le projet ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse, de nouveau à l'ordre du jour.
Oui, après des mois d'incertitude autour de ce projet qui semblait de nouveau ne pas devoir voir le jour, le Conseil d'orientation des infrastructures, présidé par Philippe Duron, a rendu ses conclusions à la ministre des Transports Elisabeth Borne. Le rapport confirme l'utilité et la nécessité des infrastructures structurantes que sont les lignes LGV Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Béziers-Perpignan. En revanche, le gouvernement souhaiterait reporter ce chantier et le morceler. Pour la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, mais aussi le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric, et le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudinc, ce projet doit être réalisé comme une opération unique et globale.
Après la grande vitesse, nous allons mettre un peu le pied sur le frein pour profiter du paysage. Les Toulousains en demandent de verdure et de lenteur.
Oui, une concertation publique est lancée jusqu'au 1er mars dans le cadre du projet de création d'une voie verte le long du Touche sur la commune de Toulouse. Cette concertation doit présenter le projet, informer le public et surtout recueillir leurs avis.
En quoi consiste ce projet, Corinne ?
Eh bien, il s'agit de créer une voie verte dédiée uniquement aux piétons et aux cycles, mais aussi de prolonger la coulée verte déjà existante. Le bilan de cette concertation fera l'objet d'une délibération en Conseil de la Métropole après enquête publique. Le début des travaux est envisagé en 2019.
Nous refermons le chapitre transport et déplacement pour évoquer maintenant le logement. Depuis le 1er janvier 2017, Toulouse Métropole a en charge le Fonds de solidarité logement.
Oui, un fonds qui rassemble plusieurs dispositifs afin de permettre l'accès ou le maintien dans un logement décent et adapté à chaque situation se présentant. Le FSL est attribué par Toulouse Métropole après dépôt d'une demande auprès d'un travailleur social, d'une maison des solidarités, d'un CCAS ou d'une association. Des aides financières sont accordées pour l'accès dans le logement sous forme de prêts remboursables, de subventions ou de cautionnement, mais aussi pour le maintien dans le logement ou encore pour les impayés d'énergie et de téléphone. À ces mesures s'ajoute un accompagnement social.
Et comment peut-on en bénéficier ?
Eh bien, l'accès au FSL est conditionné à des critères de ressources et de loyer. La demande doit être déposée auprès des travailleurs sociaux de la Maison des Solidarités de votre secteur, du CCAS ou encore de la mission locale.
Encore le logement social pour finir. La coopération interbailleur COPIB a été lancée dans les quartiers de La Rainerie et Bellefontaine.
Oui, à l'initiative des trois principaux acteurs du logement social de l'aire toulousaine, COPIB, coopération interbailleur, bailleurs engagent des initiatives communes et développent des espaces de vie collectifs pour favoriser la convivialité et renforcer le lien social dans ces deux quartiers. Une démarche qui se concrétise par la coordination d'actions de terrain menées par les équipes des trois bailleurs sociaux auprès des habitants des quartiers, projets dans des domaines du sport, de la création, de la culture, de l'environnement ou encore les financements d'actions et associations citoyennes. Près de 9000 habitants sont concernés.
Voilà, après l'écoute de ce flash, Julie Escudier, peut-être que vous souhaitez réagir notamment aux deux dernières informations. Et là, je pense pour commencer au Fonds de solidarité logement, qui est une compétence de Toulouse Métropole, mais qui a été transférée. Je crois auparavant, c'était département.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, la loi NOTRe, en fait, du 7 août 2015, effectivement, définit les compétences des métropoles. Et le Conseil départemental et Toulouse Métropole se sont mis d'accord pour le transfert du FSL, donc du Fonds solidarité logement, au 1er janvier 2017. Donc depuis cette date, la métropole effectivement a la compétence en matière de FSL. Vous avez très bien décrit ce qu'était le FSL, à qui s'adresser pour pouvoir en bénéficier. Donc peut-être quelques chiffres. Il s'agit d'aides financières qui peuvent être, comme vous l'indiquiez, des aides à l'accès. Et ces aides à l'accès, donc il y a eu 1603 demandes et 1104 ménages ont été aidés, au vu donc des critères que vous évoquiez. Il y a aussi des aides financières en matière de maintien. Donc là, 218 demandes et 83 ménages ont été aidés. Mais il y a également eu des aides financières pour les impayés d'énergie et d'eau. Donc là, 3938 ménages. Donc ça correspond, là, vous voyez, à un budget quand même de 655 000 euros environ. Et donc des mesures d'accompagnement social, d'accès et de maintien pour 710 ménages pour l'accès et environ 1000 ménages pour le maintien.
Alors, il a été évoqué, là, ce COPIB, cette coopération interbailleur, là, qui concerne le logement social dans l'aire toulousaine. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec Toulouse Métropole, hein, précisons-le. Cela dit, je suppose que vous travaillez aussi avec des bailleurs sociaux, qu'il y a des rencontres ou des concertations qui sont faites avec eux, des réunions.
Oui, oui, tout à fait. Bien évidemment, il convient de travailler avec l'ensemble des acteurs pour avoir une politique publique la mieux organisée possible de façon à pouvoir avoir une réelle utilité pour les habitants. Je crois que les personnes n'ont pas, au fond, à savoir qui porte quoi et quelle est la compétence de qui, mais au fond, comment les acteurs, que ce soit les institutions, les associations, toute structure intervenante, comment ces structures et ces institutions se coordonnent de façon à pouvoir avoir des visions globales. Donc je crois que cette démarche, effectivement, interbailleur est une démarche très intéressante, puisqu'en plus, au-delà du fait qu'ils se coordonnent entre eux et qu'ils ont une véritable vision territoriale, ils associent les habitants et ils associent les acteurs de ce territoire à la mise en œuvre d'une politique publique, au fond. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut arriver de plus en plus à travailler, c'est-à-dire avoir des visions cloisonnées et des visions verticales où chacun dit « moi je vais faire ça », ne pas vraiment savoir ce que font les autres et comment surtout on maille les actions des uns et des autres. Ça, je crois qu'on ne peut plus travailler de façon verticale et que vraiment, il est nécessaire d'avoir ces coordinations en permanence. Sinon, on perd notre utilité et on perd notre efficacité surtout et on n'est pas au service des gens.
Et c'est là que la métropole a un grand rôle à jouer, sans doute, en termes de lien entre tous ces acteurs que vous avez cités, pour mettre de l'huile dans les rouages aussi.
Tout à fait, c'est ça. Et c'est vraiment ces visions que l'on doit porter. Donc, c'est vrai qu'à la métropole, comme je vous l'indiquais au début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétences qui sont des compétences communales. Et la métropole n'est pas là, au fond, pour faire des choix en lieu et place des communes qui sont, bien évidemment, maîtres de certaines compétences. Mais faire métropole, c'est ça. C'est comment on travaille ensemble pour faire de la l'ingénierie commune, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que telle ou telle commune a porté, qui a fonctionné, qu'elle peut effectivement donner à voir à d'autres communes. C'est ça notre rôle, en disant ben, ça a fonctionné pour telle raison ou ça n'a pas fonctionné pour telle raison. Donc du coup, des petites communes qui n'ont pas forcément eu certaines difficultés par rapport à d'autres vont s'inspirer de mesures déjà prises par d'autres. Donc c'est déjà ce travail tout simple de recensement, de mise en commun, d'ingénierie commune. Donc ça sous-entend bien évidemment des rencontres communales que nous organisons et qui se passent extrêmement bien parce qu'il y a une véritable volonté de la part de l'ensemble des communes de faire métropole. Ça vraiment, je tiens à le préciser parce que ce travail de solidarité déjà intercommune est forte, hein, oui. Au niveau des élus et au niveau des services, puisque nous avons mis des référents dans chaque service communal de façon à ce que justement eh bien, l'accès à l'information soit facilité.
Et ça fonctionne quelles que soient les tendances politiques des uns ou des autres.
Ah oui, parfaitement, autour de la table justement tout le monde est là, participe et on est bien porteur du même principe de volonté de solidarité.
Merci beaucoup d'avoir précisé, développé ces points qui sont tout à fait en lien avec notre sujet du jour et la question posée lors de ce numéro qui est, je le rappelle, quelles actions mène Toulouse Métropole pour la solidarité ?
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Suite de Métropole et vous avec notre invitée Julie Escudier, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de la cohésion sociale, conseillère municipale déléguée chargée de mission à la mairie de Toulouse. Nous venons déjà d'aborder la question en parlant du FSL et un petit peu du COPIB, mais est-ce qu'on peut encore préciser la place que prend la solidarité dans la politique de cohésion sociale de la métropole ? Dans quel domaine et sous quelle forme ? On a parlé de l'emploi, on a parlé du logement, des jeunes, il y a aussi des quartiers qui sont visés, des quartiers, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a 16 quartiers prioritaires sur la métropole et 16 quartiers qui se trouvent sur 4 communes. Donc la commune de Toulouse, la commune de Blagnac, la commune de Colomiers et la commune de Cugnot. La politique de la ville, c'est quoi ? Eh bien, c'est une politique intégrée et transversale qui va mobiliser l'ensemble des leviers, c'est-à-dire des leviers à la fois sociaux, à la fois urbains, à la fois économiques, de façon à améliorer la qualité de vie des habitants de ces quartiers prioritaires. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser qu'effectivement, le portage, puisque le contrat de ville est signé, a été signé le 15 juillet 2015, entre l'État, Toulouse Métropole, les communes, le département, la région, la CAV, les offices HLM, l'ARS, bon, divers intervenants. Donc, ça prouve vraiment cette volonté d'agir en commun. Ce que j'expliquais tout à l'heure, cette vision intégrée et le fait de ne plus être dans des tuyaux au fond verticaux, mais bien sur une transversalité, le contrat de ville en est l'exemple même. Mais même si, bien évidemment, la métropole porte ce contrat de ville, elle n'oublie pas qu'avant de tomber dans des situations compliquées que sont les situations vécues par les quartiers prioritaires, il convient d'agir en amont. Et c'est bien ça le travail aussi qu'on essaie de faire avec les communes, c'est que cette vision, au fond, que prône la politique de la ville, qui est une vision transversale, c'est celle qu'on essaie d'avoir pour l'ensemble des communes. Donc attention, la politique de la ville, effectivement, ce sont des leviers mis en œuvre, mais la vision générale que l'on souhaite avoir, effectivement, est cette vision coordonnée. Donc je crois que c'est important de le préciser, voilà, sur les quartiers, donc 16 quartiers prioritaires, ce qui n'est pas rien.
Dans le cadre du contrat de ville, hein, tout ça se passe dans le cadre du contrat de ville.
Tout à fait, dans le cadre du contrat de ville et avec des
actions ciblées, je suppose,
des actions
quartier
ciblées,
par quartier,
exactement.
Et ville par ville éventuellement.
Voilà, tout à fait, ville par ville, quartier par quartier, avec des budgets qui sont des budgets assez conséquents, hein, puisque on est sur des budgets de 156 millions d'euros sur le mandat, hein, ville de Toulouse et Toulouse Métropole, et qui correspond au fond à la fois à des budgets effectivement pour structurer des actions de quartier, du financement associatif, mais aussi des budgets pour des actions de renouvellement urbain. Des actions type quand il y a des démolitions de bâtiments, par exemple des démolitions aux Isards, quand il y a des reconstructions, par exemple à Bellefontaine, voilà.
Vous évoquez quelque chose qui me semble très important, qu'il faut peut-être qu'on précise encore, c'est la répartition des rôles entre les communes et la métropole, mais aussi le conseil départemental et la région. C'est-à-dire que vous essayez évidemment de travailler tous ensemble, mais il y a des domaines qui sont bien spécifiques à l'une ou l'autre de ces collectivités.
Oui, il y a des domaines de compétences qui sont propres et effectivement, l'objectif est d'arriver à faire en sorte que il faut se coordonner. Donc, l'exemple que l'on peut donner, qui correspond à l'exemple récent du transfert de compétences, hein, qui a été mis en place donc au 1er janvier 2017 avec le conseil départemental, donc les deux collectivités, hein, conseil départemental et Toulouse Métropole, ont signé un accord qui vise à coordonner leurs actions sociales à l'échelle de la métropole. C'est un exemple. Mais il y a des travaux en commun, notamment dans le cadre de GIP, qui peuvent être...
Qu'est-ce que c'est, JIP, excusez-moi.
Pardon, c'est un groupement d'intérêt public. Donc justement, pour pouvoir travailler ensemble avec plusieurs institutions, plusieurs acteurs, il y a des regroupements qui peuvent être sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Voilà, donc un JIP.
Sur un sujet donné, d'accord.
Sur un sujet donné, voilà. Donc il y a par exemple un JIP sur la réussite éducative. Où là, la présidente est la sous-préfète. Donc c'est quelle est la vision globale en matière de réussite éducative, mais elle est co-construite avec divers partenaires et diverses institutions justement pour que, eh bien, il y ait des actions les plus prometteuses possibles, nous dirons. Mais il y a également un JIP en matière d'accès au droit. Donc il est piloté par le président du tribunal de grande instance de Toulouse. Donc c'est pareil, quelle est la vision en matière d'accès au droit et qu'est-ce qu'on met en place avec un ensemble d'acteurs autour de la table pour chacun ne pas partir dans des actions différentes en matière d'accès au droit.
De manière le plus efficace possible.
Tout à fait. Et là, donc, il y a aussi, par exemple, le Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est pareil. Donc là, c'est présidé par le président de la métropole, donc Jean-Luc Moudenc, mais autour de la table, diverses institutions, de façon à avoir une vraie politique en matière de prévention de la délinquance qui soit coordonnée. Il y en a beaucoup d'autres. Mais il y a également le PLI, qui là aussi, on y viendra.
Voilà. Alors, donc, travail en concertation entre les différentes collectivités territoriales, celles qu'on vient de citer. Je suppose aussi travail en concertation avec des associations ou certains établissements publics.
Tout à fait. En concertation avec les associations, on finance directement. La métropole finance directement certaines associations qui auront des actions effectivement dans des quartiers ou dans des communes de la métropole, dans les domaines donc évoqués tout à l'heure, qui sont soit de la parentalité, de l'aide à la parentalité ou en matière de prévention. Bon, donc on finance directement, et on évalue les propositions faites. Et une fois que les propositions sont mises en œuvre dans les communes, on évalue pour voir l'efficacité au sens noble, c'est-à-dire l'intérêt pour les citoyens que de financer de telles actions de façon très concrète. Et on s'entend avec, bien sûr, les communes de façon à voir si c'est vraiment le besoin qui est le leur dans leur commune. De façon à, c'est l'objectif, être très concret et ciblé au mieux
par rapport aux besoins et aux attentes des citoyens,
voilà,
bien entendu.
Fait.
Alors, il y a des actions qui sont spécifiques, par exemple des actions en direction des jeunes. Je pense notamment à ce qui s'appelle le fonds d'aide aux jeunes. Est-ce que vous pouvez décrire ce dispositif et ce qu'il concerne ?
Le fonds d'aide aux jeunes avait été créé en 1989 parce que les moins de 25 ans n'avaient pas accès au RMI. Donc, ce fonds, en fait, c'est une aide, on va le qualifier de dernier recours, c'est-à-dire quand aucune aide de droit commun ne peut intervenir, vous pouvez bénéficier donc de ce fonds d'aide aux jeunes quand vous avez entre 18 et 25 ans. Et l'objectif est de lutter contre l'exclusion des jeunes qui sont dans des situations de grandes difficultés sociales ou professionnelles. Donc les demandes se font auprès des missions locales, des maisons de solidarité, des résidences habitat jeunes, par exemple, voyez, des clubs de prévention. Ce fonds d'aide aux jeunes, c'est à peu près 1300 demandes par an qui sont traitées environ, pour vous donner un ordre d'idée.
Sur l'ensemble de la métropole.
C'est ça.
C'est un dispositif typiquement métropolitain.
C'est un des dispositifs effectivement transférés et sur lequel on travaille en lien avec le département. Pour les communes qui ne sont pas des communes métropolitaines, le département...
Alors, vous avez évoqué le PLI tout à l'heure, ce qu'on a, le plan local d'insertion emploi. C'est ça le terme exact, je crois.
Oui, tout à fait. C'est
alors, ça. Évidemment, ça concerne l'accès de tous les citoyens des métropoles à l'emploi. Est-ce que vous pouvez donc décrire ce dispositif et nous dire d'abord, est-ce qu'il concerne vraiment que la métropole et ses 37 communes ou est-ce qu'il va au-delà ?
Non, alors il va au-delà. Alors le PLI est un dispositif, donc vous savez qu'en matière d'emploi, il s'agit d'une compétence de l'État d'abord. Donc nous travaillons bien évidemment en lien avec l'État. L'État fait partie d'ailleurs du PLI, on fait pas ça dans notre coin tout seul. Mais c'était comment, quand on a des personnes en situation de difficulté d'emploi depuis environ 24 mois à minima, c'est à peu près ça. Donc c'est vraiment une situation très compliqué d'accès à l'emploi, chômage longue durée, voilà.
Donc on ne sort pas.
C'est ça. Et là, en fait, on opère un travail dans la dentelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, le PLI, c'est un accompagnement très, très proche et
au
plus près, très, très personnalisé, voilà, des individus où on va soit lever des freins, c'est-à-dire on se rend compte qu'une personne a des difficultés de mobilité, a des difficultés de garde d'enfants, a des difficultés parce que le non-emploi pendant une longue durée, ça peut aussi avoir des conséquences psychologiques. Donc, on cible au fond et avec la personne, les difficultés qui font que déjà l'accès à l'emploi est compliqué. Donc ça, c'est un premier volet. C'est vraiment comment on peut venir en aide sur des levées de freins. Et en parallèle, on travaille vraiment avec un réseau d'entreprises où on explique notre méthode de travail aux entreprises et on leur fait comprendre que parfois, elles font des recherches d'emploi pour qu'une personne occupe tel poste, qu'elle recommande tel niveau de diplôme, telle expérience, et qu'au final, on a peut-être la personne qu'il lui faut, parce qu'on connaît parfaitement la personne, les personnes que l'on suit, et ce lien très proche à la fois avec les individus suivis et à la fois avec les entreprises, fait qu'on arrive à créer ce lien qui parfois n'existe pas parce que chacun justement reste dans ses visions. Et donc, pour vous dire, donc ça, cette technique de rapprochement de l'entreprise, on le met en œuvre depuis quelques années, hein, très peu. Et là, en une année, on a eu une augmentation de 10 points de sorties positives. Donc, on est au-delà des sorties nationales, hein, en termes...
La moyenne nationale.
La moyenne nationale des autres plis. Voilà, donc c'est un travail qui, certes, est vraiment un travail dans la dentelle, mais qui porte ses fruits.
Alors, j'ai vu qu'il y avait un appel à projet en direction d'opérateurs, hein, et donc sur les 73 communes, je rappelle que la métropole, c'est 37 communes, dont Toulouse. Là, les 73 communes, c'est toute l'agglomération.
C'est ça, c'est les 37 communes de la métropole et les 36 communes du Sicoval. Donc, effectivement, on couvre 73 communes avec des visions concertées, travaillées, une participation. Donc là, puisque sont signataires du protocole du PLI, hein, l'État, le conseil départemental, le Sicoval, Pôle emploi, Camp emploi, la mission locale et Toulouse Métropole Emploi.
Voilà, voilà. Donc,
toujours pareil,
tout à l'heure,
on travaille.
Par les établissements publics, je pensais notamment au Pôle emploi avec lequel forcément vous travaillez sur
c'est
des sujets comme celui-ci. Donc si ça concerne 73 communes, donc le but aussi c'est de créer, en outrepassant les limites de la seule métropole, une espèce de solidarité territoriale et à créer des synergies sur l'ensemble de l'agglomération, pas seulement sur la métropole.
Tout à fait, et c'est fondamental, effectivement, d'avoir ces visions larges.
Alors, un sujet dont on entend parler dans l'actualité, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est la prise en charge des migrants. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans la métropole et ses communes? Comment ça fonctionne? Et d'abord, qui est responsable de quoi sur ce sujet?
Oui, alors, c'est la compétence de l'État, mais nous sommes tous concernés, chacun avec nos compétences, mais tous concernés par... En ce qui nous concerne, en tout cas à la métropole, la volonté d'agir en faveur de l'insertion de toute personne de façon à ce qu'il n'y ait pas d'exclusion. C'est bien ça, la...
Migrant ou pas,
voilà, tout à fait. D'ailleurs, enfin, vu qu'on évoquait le PLI, sachez que on a dans le PLI justement des dispositifs spécifiques, hein, puisqu'on s'est rendu compte, on ajuste nos dispositifs, c'est l'objectif, qu'il y avait besoin de plus en plus, notamment d'apprentissage de la langue française, et on a des références spécifiques, deux référents hein, en particulier, qui travaillent justement sur l'aide à l'apprentissage de la langue française. Donc là, les migrants peuvent en bénéficier, par exemple. Nous avons également des dispositifs, notamment à la ville de Toulouse, là, hein, pour les personnes en situation d'exclusion, et notamment à l'espace social du Grand Ramier, puisque pour lutter contre la précarité, nous avons des interventions donc pour toute personne. Hein, on sait que les migrants, à l'arrivée, hein, parfois, ils peuvent aussi être dans des situations d'exclusion et de grande exclusion. Donc, ils peuvent être accueillis à l'espace social du Grand Ramier, où il y a un service de restaurant social, un service d'accueil, de douche, de laverie, voilà.
Alors là, ce sont surtout les communes, si je comprends bien, qui sont concernées au premier chef. La métropole intervient plus éventuellement dans un second temps, peut-être en termes de, je sais pas, de coordination ou d'aide en ingénierie sociale.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, les communes interviennent. Si nous, à un moment donné, on est sollicité pour faire le lien entre les communes, on le fera sans aucune difficulté pour voir où est-ce qu'il y a des logements disponibles. Voilà, mais
parce
là,
c'est
vrai que...
C'est globale que n'ont pas les communes, évidemment.
Exactement, exactement. Donc, quand on peut être un rouage utile et que nous sommes sollicités, bien évidemment, nous essayons de faire le maximum pour faciliter l'intégration.
Alors, j'ai un peu la même question concernant les SDF. L'accueil des SDF, là aussi, ça relève, je pense, des communes, vraiment, proprement dit. Ou est-ce que la métropole a aussi un rôle à jouer là-dedans?
Alors, quand des communes, et notamment l'espace social du Grand Ramier dont je vous parlais, bon, c'est toujours difficile de savoir, au fond, si un SDF est vraiment de Toulouse ou est-ce qu'il est de la commune d'à côté, d'où il vient. Bon, donc, c'est vrai qu'à l'espace social du Grand Ramier, on accueille tout le monde. C'est situé à Toulouse, mais on ne va pas se demander d'où vient au fond la personne initialement. Mais c'est vrai que sur Toulouse, on a cet espace social dont je vous parlais. Nous réfléchissons également à d'autres actions portées par des associations que nous pouvons financer pour faciliter cet accueil au niveau de la métropole. Mais après, chaque commune a aussi ses propres actions spécifiques.
Il y a eu une polémique récemment sur ce qu'on a appelé le mobilier, j'ai horreur de ce mot, le mobilier dit anti-SDF. Il y a une législation là-dessus. Qui est censé la faire respecter? Ce sont les services municipaux?
Oui, ce sont les services municipaux davantage qui, effectivement, quand ils aménagent leur ville, hein, parce qu'au fond, c'est un mobilier d'aménagement anti-stationnement. Il est
oui,
dit, il porte plusieurs
choses,
noms.
Hein,
voilà. Voilà. Donc, ce mobilier, effectivement, c'est à l'origine du maire de la commune qui a la possibilité de demander à ses services, en fait, de déployer ou pas ce genre de mobilier. Voilà.
Et donc c'est une compétence typiquement municipale. La métropole là-dedans n'est absolument pas concernée.
La métropole n'est pas concernée par le choix, en tout cas, effectivement, de la pause. Ça, c'est vraiment un choix communal.
Très bien, eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Merci infiniment, Julie Escudier, d'avoir participé à ce numéro et de nous avoir fait mieux connaître le rôle et les actions de Toulouse Métropole pour la solidarité sur son territoire. Il s'agissait aussi de décrire la répartition, parfois un peu complexe, des responsabilités et des périmètres d'intervention dans ce domaine entre les différentes collectivités territoriales. J'espère que nous aurons réussi à être clairs sur cet aspect des choses, tout comme dans la présentation des dispositifs mis en place par la métropole toulousaine et dans l'explication de leur fonctionnement. Si vous avez besoin d'y revenir pour en savoir plus et d'obtenir des détails supplémentaires, il y a toujours la possibilité de consulter le site de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie mission, rubrique solidarité. Tous les dispositifs que nous avons évoqués lors de ce numéro y sont décrits très précisément, alors n'hésitez pas à y les voir de plus près. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.